RTL.
RTL, première radio de France.
Vous nous écoutez depuis le bout du monde ?
Les grosses têtes vous proposent de dialoguer avec elles.
Si vous avez l'habitude d'écouter les grosses têtes au bout du monde, alors écrivez-moi. Je vous rappellerai et à la rentrée, nous bavarderons en direct.
Inscrivez-vous sur rtl.fr,
rubrique Les auditeurs du bout du monde,
pour participer aux grosses têtes en direct sur RTL.
Les grosses têtes de Philippe Bouvard, c'est tous les jours de 16h à 18h. Sur RTL. Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard
sur RTL.
Bonjour. Deux écrivains de grand talent ont accepté de jouer le jeu des grosses têtes. Éric Emmanuel Schmitt, que nous évoquerons tout à l'heure, et Philippe Sollers. Observateur lucide et exégète enthousiaste de lui-même, Philippe Sollers a collaboré à un journal idéal puisqu'il en est le seul rédacteur. Affirmant d'emblée que les journalistes ne lisaient jamais les livres dont il parlait ou dont il faisait parler, il m'a piqué au vif. Après quoi, il nous a affirmé qu'il n'avait jamais travaillé de sa vie, qu'il était son écrivain contemporain préféré et que, par-delà d'innombrables liaisons, il continuait à être fou de sa propre personne. On lui a pardonné pour les quelques instants de vérité où il avouait avoir fait le chimpanzé afin d'amuser les filles sur le rebord des fenêtres du lycée Montesquieu, pour ses regrets de n'avoir pas été proxénète comme une charmante jeune femme le lui avait proposé dans sa jeunesse, et pour avoir rappelé que sa famille possédait une usine de poubelles et lessiveuses. Enfin, il a terminé son lavage de linge sociétal en imputant tous les malheurs de l'homme au fait qu'il est incapable de rester seul le soir dans une chambre à coucher. Asseyez-vous, mon cher maître. Vous aimez bien qu'on vous appelle mon cher maître ?
Non.
Non ?
Ni maître, ni esclave.
Bon, ça se fait beaucoup dans la littérature.
Ah oui, j'ai horreur de ça. Non.
Mais il faut être académicien.
Hein? Oh oui, alors encore moins. Bon. Non, pas de maître.
Pourquoi vous avez refusé l'académie ?
Je ne refuse pas l'académie. C'est l'académie qui ne veut pas savoir que je la refuse. C'est tout à fait différent.
Oh, allons.
Ça ferait baisser mes prix.
C'est vrai ?
Oui, parce que mon public serait très déçu. J'ai un public fidèle, tout à fait peu académique, qui, si j'étais de l'Académie française, refuserait d'acheter mes livres. Alors je serais où ? À l'académie. Mais dans quel état ?
Oui.
Dans quel état ?
Oui.
Non, c'est un mouroir qui ne me convient pas, non.
Ah ben ça, c'est vrai, un mouroir qui prolonge souvent les gens qui y sont admis. Hein.
Oui, c'est vrai.
Il n'y a pas beaucoup de petits jeunes. Hein.
Enfin, c'est pas en montée. Il y a très peu d'écrivains vraiment intéressants à l'Académie.
Non, c'est vrai.
La grande époque est passée. Il fallait être au XVIIe siècle avec Racine, Boileau, tout ça.
Oui, mais alors là, je n'aurai pas le plaisir de vous interviewer.
Par table tournante, peut-être.
Eh bien, écoutez, depuis votre dernière visite, je crois que c'était pour le dictionnaire amoureux de Venise.
Oui, hein. Merci.
Ah ben attendez, j'ai les Sollers de la semaine.
Ah ben c'est
alors,
bien.
Dites donc, j'en ai plein mon cabas. L'Infini, numéro 100, qui est la revue littéraire.
Qui existe depuis 25 ans.
Oui.
Voilà, où il y a beaucoup de textes, notamment de jeunes auteurs, qui ont eu parfois beaucoup de succès.
Dont Madame Doris Lessing, 88 ans, mais prix Nobel de littérature, c'est pas rien.
Et c'est pas rien, et en plus son texte est excellent.
De Kooning, qui c'est ça, De Kooning ?
De Kooning est un peintre américain parmi les plus chers du monde aujourd'hui.
Vous faites tout, vous, la musique, la peinture.
L'art en général,
oui. Ensuite, Guerre secrète, alors ça c'est un nouveau livre. Hein. Mm-hmm. Vous n'avez pas peur que ça se télescope un peu tout ça ?
Non, ça fait un télescope.
Oui. Et puis alors, les mémoires, très attendues, et qui contiennent un nombre considérable de révélations. Et ces mémoires vont m'amener à vous placer en garde à vue. Croyez-vous vraiment que les journalistes ne lisent jamais les livres dont ils parlent ?
C'est prouvable. C'est-à-dire que la profession de journaliste est extrêmement exposée. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas beaucoup de temps, qui sont très fatigués la plupart du temps.
Vous êtes en train de vous rattraper, là.
Et donc,
ils n'ont pas le temps de lire les bouquins.
Non, ils n'ont pas le temps. Et donc, le premier
enfin, qui... Est-ce que ce n'est pas de l'honnêteté qui les pousse à ne pas lire les bouquins que d'autres n'ont pas écrits?
Écoutez, souvent, en effet, de plus en plus de gens n'écrivent pas leurs livres, c'est connu. Moi, je fais tout à la main. Donc, je suis un petit artisan.
À la main et à l'encre de Venise.
Oui. Et alors, je suis un tout petit artisan dans un monde chaotique, industrialisé, calcul, ordinateur et tout. Donc, je vous remercie beaucoup de me donner la parole parce que je vais parler au nom de tout petits artisans, des petits orfèvres qui subsistent dans leur petit métier. Et donc, les journalistes, évidemment, n'ont pas le temps. Alors, le premier journaliste qui a parlé, en général, est pompé par les autres. Oui. Et c'est la raison pour
laquelle... Il faut qu'il y en ait un qui ait lu le bouquin et moyennant.
Ou du moins qui ait fait semblant. Qui on a transmis des fiches et qui les... je connais vous savez qu'il y a une profession, je ne citerai pas de nom, de critique littéraire ou de star de la télévision, mais il y a un nouveau métier que les jeunes chômeurs le prennent. Ça s'appelle être fatigueur de livres chez X ou Y. C'est pas pour que l'autre ait l'air d'avoir au moins ouvert le bouquin, vous comprenez?
Oui.
Alors, je ne citerai pas.
Maintenant, il n'y a plus de pages à couper, apparences sont sauves.
Oui. Mais il faut fatiguer un peu les livres, parce qu'autrement, ça fait moche dans la caméra.
Est-ce par coquetterie ou par goût du paradoxe que vous affirmez n'avoir jamais travaillé?
Je trouve qu'en effet, c'est un mot qui peut choquer, mais franchement, la littérature, ou si j'avais été peintre, j'aurais fait de la peinture, si j'avais été musicien, j'aurais fait de la musique, probablement.
C'est même préférable, probablement. Quand on est peintre, vous pouvez faire de la peinture.
Je ne pense pas que le mot travail s'applique à ce genre d'activité. C'est plutôt du jeu.
C'est un plaisir.
C'est plutôt du jeu et du plaisir qu'autre chose. Je me suis débrouillé en effet.
Donc vous n'aurez pas de retraite, pas de sécu. Rien du tout.
La mort, tout simplement.
Êtes-vous votre écrivain contemporain préféré?
Sans aucun doute, mais c'est même pas contemporain. C'est vraiment pour le futur.
Et pour le passé aussi.
Préféré. Hein? Mais alors, préféré, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire que je n'estime pas le talent de beaucoup d'écrivains, notamment de gens plus jeunes qui sont en train d'arriver.
Oui.
Il faut. Vous savez, être un jeune écrivain aujourd'hui, je ne voudrais pas l'être. Non. Parce qu'il faut du succès tout de suite. Il faut vraiment. Moi, je n'aimerais pas avoir 25, 26, 30 ans. Pas du tout, non.
Rassurez-vous, il n'en est pas question.
Mais même si ça m'était proposé.
Est-ce que ce n'est pas une forme d'aliénation d'être, comme vous l'avouez, fou de soi-même?
J'ai pas dit fou de moi-même, j'ai dit que j'étais fou, ce qui est tout à fait différent. Et donc je connais bien la folie, puisque je suis fou, et tout à fait sans l'avoir voulu. Je suis né un peu, tout à fait fou. Bien, il faut être fou pour écrire des livres aujourd'hui, à la main en plus.
Mais il faut être lucide pour écrire qu'on est fou.
Il faut avoir une certaine lucidité, en effet, parce que si j'étais pas lucide, eh bien, je serais quelque part enfermé. Comme c'est arrivé d'ailleurs beaucoup d'écrivains ont passé le cap.
Vous êtes enfermé chez Gallimard depuis très longtemps.
Oui, mais enfin, je passe par les toits, je m'échappe.
Il y a quand même des moments de liberté.
Oui, on peut.
Est-ce que vous souscrivez à cette formule de Jean Edernalier qui disait à peu près, c'est pas parce qu'un texte est de moi que je dois pas reconnaître qu'il est génial?
Et c'était en effet à propos de mégalomane assez timbré. Je veux dire, lui, il était timbré, il n'était pas fou.
Mais vous êtes
franchi. Il y a une grande différence entre être cinglé, branque, timbré ou être fou. Fou, ça demande une discipline particulière.
Ouais. Pourquoi au lycée Montesquieu faisiez-vous le chimpanzé sur le rebord des fenêtres?
Ah oui, c'est dans mes cartes scolaires, ça. J'ai beaucoup de notes très drôles. Oui. L'esprit frondeur fait le chimpanzé sur le rebord des fenêtres pour amuser les filles. Parce que c'était un lycée mixte. Ça m'a beaucoup appris d'être dans un lycée mixte très jeune.
Mais vous chassiez la guenon de bonheur, alors, hein?
Comme vous dites, oui. Mais enfin, j'étais un bon singe, oui.
Est-ce que vous regrettez parfois de ne pas avoir été proxénète comme une charmante jeune femme vous le proposait?
Écoutez, oui, c'est vrai, ça c'est assez... Mais il y a un grand écrit américain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Faulkner, qui disait qu'un écrivain, pour la vie d'un écrivain, ce serait de vivre dans un bordel et d'écrire comme ça. Donc en effet, là, il y a quelque chose, il y a une situation de détente. Mais en fait, tout ça ne se fait plus. La morale est revenue, elle revient à grand
pas. Vous avez hésité quand même quand la jeune femme vous a proposé de travailler pour vous?
Très légèrement, mais franchement, non, parce qu'elle se serait attachée à moi, j'avais d'autres projets.
Les grosses têtes de l'été et Philippe Bouvard reçoivent Philippe Solers aujourd'hui, on les retrouve sur RTL.
Quelques questions culturelles. Question de Madame Corroyer, qui a dit « S'aimer soi-même, c'est une belle histoire qui durera toute la vie ».
C'est pas mal, ça.
C'est mort.
C'est mort.
Jules Renard.
Étranger. Non, c'est pas de chez nous.
C'est pas de chez nous.
Mort. Chaud.
Non.
C'est courageux. Wild.
Wild. Oscar Wilde.
C'est courageux, en tout cas, d'avoir dit ça. Wild, oui. C'est bien.
Ouais. Mais vous ratifiez, hein.
Oh, dès demain.
Oui. Ou d'une seule... Bonne réponse de Mabille. Et... La deuxième citation envoyée par M. Thomas qui a dit « Je suis contre les prix littéraires. À la rigueur, je pardonne à M. Nobel d'avoir inventé la dynamite, mais pas d'avoir inventé son prix. »
Sartre ?
Non, c'est pas de chez nous non plus.
Un scientifique ?
Non, un littérateur.
Un littérateur anglais ?
De langue anglaise.
Bon, anglo-saxon.
Voilà, ouais.
Bon, c'est pas Hemingway, puisqu'il l'a eu.
Non, je crois qu'il était irlandais.
Ah, bah c'est.
Chaud.
C'était chaud.
Ah oui, c'était chaud. Ah, oui, oui. Oui.
Alors, sa femme aussi.
Oui. Il paraît.
Vous êtes contre les prix littéraires ?
Ça, tout à fait, oui, ça ne m'intéresse pas du tout.
Oui. Ouais.
Mais enfin, c'est bien, paraît-il, pour la littérature. C'est très français, hein, il faut dire.
Très français.
Oh là là, c'est oui. Français, c'est français. Alors, c'est des problèmes entre éditeurs, vous savez, il ne faut pas non plus rêver, c'est des trésoreries qui s'échangent.
J'ai relevé une contradiction, d'ailleurs, dans votre livre. Vous affirmez ne jouer aucun rôle dans la République des lettres.
Non, parce que je suis monarchiste.
Oui, mais 50 pages plus loin, vous dites que vous avez œuvré pour qu'on donne un prix littéraire à Michel Houellebecq.
Oui, c'est un pote, c'est un petit prix, mais très bien, très, très généreusement doté par Pierre Berger, c'est le prix novembre. D'ailleurs, le mécène antérieur était tellement furieux qu'il a supprimé le prix. Ça s'appelait le prix novembre. Il était furieux que Houellebecq ait eu le prix, il détestait ça. Voilà, donc. Mais enfin, il l'a eu quand même. Alors après ça, on a eu un autre sponsor et on a appelé ça non plus novembre, mais décembre. Non, mais Houellebecq, je vous assure que c'est très bien, Houellebecq.
Bah oui, c'est bien. Ça donne envie de le lire. Hein.
Il est né à Bièvre.
Oui.
Houellebecq de Bièvre.
Oui.
Consternant, monsieur.
Oui, oui. Ah ben, il faut.
Il aurait pu naître à gaz.
Ah oui, Philippe a raison.
Oui. Tu cherches un complice hein, dans ta turpitude.
Question de monsieur Gentil. Qu'est-ce que les sexologues appellent la panthéraphilie ?
C'est avoir des strings en peau de panthère.
C'est quand on se fait griffer dans le dos par la salope qui a des ongles longs, c'est dégueulasse.
Non. C'est en fait...
être tout moucheté.
Ça ne s'écrit pas comme panthère.
Un penchant pour quelqu'un de sa famille.
Ah, sa grand-mère.
Non.
Oui, quand vous se tapez mémé.
Son grand-père.
Non.
C'est arrêtez. Plus jeune que ça.
Ses enfants.
Son oncle.
Sa tante. Bonjour.
Son chien.
Non. Je dis le chien, oui, fait partie.
Sa belle-sœur. Sa belle-sœur.
Le chat. Le chat, parce que c'est un félin.
C'est pas la belle-sœur.
Sa sœur.
Ah, c'est pas la belle-sœur.
C'est son gendre.
Son gendre.
Alors.
Ah, oui.
Avoir envie de se taper son gendre.
Sa belle-fille ou son gendre.
Non. Ah, oh, vous savez,
c'est
alors.
C'est la belle-mère qui a envie de tirer son gendre.
Pourtant, c'est une situation qui a été exploitée
la
dans le roman
alors,
au théâtre.
Oui, quand la belle-mère.
Ah, la femme de son meilleur ami.
Non.
La belle-mère.
La belle-mère.
Ah, enfin.
Le penchant pour la belle-mère.
Mais bien sûr.
Et pourquoi
heureusement que Philippe Soler, c'est là, avec son érudition. Les sexologues appellent
qui
ça...
Qui veut connaître la fille va passer par la mère.
Oui, oui.
Il y a de nombreux livres où il y a...
Ben, écoutez, oui, c'est sur le théâtre, oui, tout ça.
Oui. Oui.
Et d'ailleurs, ça peut se justifier maintenant que les femmes restent jeunes longtemps.
Oui.
C'est,
oui.
Je pense, une situation qui peut se reproduire ouais. Assez souvent désormais.
Mais... On dit qu'il voit la mère, voit la fille. Hein, c'est ça aussi. Oui.
Et réciproquement.
Et qui voit Molène, voit sa peine. Qui voit Westland, voit son sang.
Ah, oui.
Qui voit le poule du, voit son cul. Voilà.
On ne l'arrête plus.
Eh bien, c'était un peu de promenade bretonne.
Donc tu pourras aller aux Jeux Olympiques de la poésie.
Ah bah tiens,
ils t'attendent les bras ouverts.
Ouais.
Pierre Bellemare, Philippe Chevalier, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni et Jean Amadou sont nos grosses têtes de l'été. Ils entourent Philippe Solers, l'invité d'honneur de Philippe Bouvard.
Quand l'un de vos livres se vend moins bien... Avez-vous...
Ça m'arrive, oui.
Oui, ça arrive à tous ceux qui publient.
Mais c'est-à-dire, c'est pas, vous comprenez, maintenant, on croit que publier un livre est une opération commerciale. Alors tout est comme ça.
Pas du tout.
Et donc, moi, je fais un peu l'artisan. que je suis fait parfois des livres qui se vendent très peu. Ça n'a aucune importance du moment qu'il y a quelques lecteurs qui sont là. Il y en a toujours un certain nombre, voilà.
Mais alors, ça, hypothèse de travail, quand l'un de vos livres se vend moins bien, est-ce que vous avez du remords de ne pas avoir repris l'usine familiale de poubelles et de lessiveuses ?
Mais non, heureusement que je ne me suis pas destiné à ça, puisqu'ils ont, ils ont fait faillite juste au moment où je devenais écrivain. Alors évidemment, mes parents étaient très hostiles à ma vocation, comme on dit.
Ne prenez pas ça au sérieux, non ?
Non, pas du tout, pas du tout. Ça m'a l'air complètement débile de ma part, sauf que j'ai quand même intuitionné quelque chose et anticipé, puisque au moment où je publiais mon premier livre, c'est-à-dire très jeune, 21 ans, ils étaient en train de faire faillite, donc plus d'usine, plus rien. Donc voilà, je pouvais ensuite les toiser avec compassion.
Le goût des femmes mûres vous a-t-il passé avec l'âge ?
Écoutez, le goût des femmes s'estompe avec l'âge. Mais enfin, c'est vrai que je suis particulièrement content. Je recommande ça aux jeunes générations. Mais vraiment, vous me laissez parler librement, comme je vous
remercie. Oui, bien sûr.
Philippe, c'est trop gentil à vous. Je conseille volontiers aux garçons, en tout cas, puisque c'est de ça que je suis l'expert, de commencer tôt. Commencer tôt et en général avec des femmes plus âgées. Oui.
Plus âgées.
C'est ce qui m'est arrivé.
Et après,
j'avais 15 ans et cette femme adorable avait 30 ans. Ça m'a fait gagner un temps considérable, surtout par rapport aux garçons de mon âge qui m'ont eu l'air toujours très en retard sur le terrain.
Ah, ben quoique, bon, les amis des mamans étaient là.
Oui, d'ailleurs, vous parliez de Doris Lessing, c'est le sujet d'un de ses livres très scandaleux, qui est très intéressant à lire, oui. Les grands-mères, je ne sais pas quoi, oui.
Ce qui est important dans un couple, c'est la moyenne d'âge. Donc, à partir du moment où l'homme est plus âgé, il faut que la femme le soit moins.
Oui, mais ça c'est en général c'est le coup classique, c'est-à-dire petit à petit l'homme vieillit et prend des femmes plus jeunes. Vous aurez remarqué que le tabou joue dans le sens contraire, hein, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire là c'est un très grand tabou, mais c'est même peut-être ce qui choque le plus. Bon, voilà, le diable au corps, de Radigate.
Un garçon de 15 ans avec une dame de 30 ans, c'est pas de l'incitation de mineur à la débauche, ça ?
Si, bien sûr, mais c'est ce que justement.
Mais c'est accepté alors.
C'est ça qui est bon.
Ce que je suis en train de plaider.
C'est pas vous qui avez.
Moi, j'ai toujours été adultophile, voyez-vous.
Oui, c'est ça. Si un mec de 30 ans emballe une dame de 15 ans, il tombe sous le coup de la loi. Le contraire, non.
Voilà.
C'est pas vous qui aviez dit que.
C'est très bon pour les deux sexes.
Le féminin de Don Juan, c'était nymphomane ?
Non, j'ai pas dit ça. Parce que moi, il y a une chanteuse admirable que j'aime beaucoup, Cécilia Bartoli, qui a du génie, qui m'a dit un jour, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous aimeriez vraiment chanter ? Elle m'a dit, Don Juan. Donc ça vraiment, une femme peut arriver peut-être à ça, mais pour ça, il faut vraiment. Non, nymphomane, ça veut dire tout et n'importe quoi.
Bah, en tout cas, c'est une femme qui veut bien. Hein,
oui, une escaladeuse de braguettes.
Bah oui, mais. Oui, mais ça veut dire presque sans choix.
Elle prend le tournant.
Alors que tout de même, le Don Juan, vous lisez l'air du catalogue, il prend de tout, mais chaque fois avec lucidité, en choisissant sa proie.
Comment peut-on être à la fois, comme vous, un séducteur impénitent et marié depuis 40 ans avec la même femme ?
Et voilà, c'est l'art. Parce que je n'entre pas dans ces procédures sociales qui consistent à... Pénibles, d'ailleurs. J'ai vu ça beaucoup aux États-Unis. C'est-à-dire, on a une liaison avec une femme, on l'épouse, et ensuite on divorce, alors il y a une pension alimentaire. Après,
ça se voit même en France, les divorces. Hein.
Et tout ça est très pénible, et en effet, on assiste à ces espèces de décomposition, recomposition, redécomposition, etc. D'ailleurs, je vous annonce qu'en 2011, je peux anticiper déjà, vous verrez bien que si j'ai raison, en fonction de la réélection du président Sarkozy, la famille recomposée, redécomposée et re-recomposée se représentera dans une grande garden party à l'Élysée, et vous aurez tout le monde réconcilié, tout ça, avec d'ailleurs beaucoup d'enfants nouveaux.
Est-ce que le parc sera assez vaste pour accueillir la famille ?
Je pense qu'il y aura des parcs, des mariages, et surtout beaucoup de naissances nouvelles.
Des
enfants sont en cours. Il y aura un children's corner énorme. Vous verrez cette garden party. Rappelez-vous ce que je vous aurais dit aujourd'hui. 14 juillet 2011.
Je note.
En 2012, rebelote 50 plus.
Vous remplacez Elisabeth Tessier.
Hein. Ah oui, mais elle voit dans les astres. Moi, je vois vraiment dans les profondeurs politiques.
À propos de Tessier, là, il n'y a pas d'association d'idées. Qu'est-ce qui vous a fait croire que Mitterrand pouvait avoir l'intention de vous offrir des préservatifs ?
Eh bien, hein, je me rappelle très bien. Je raconte absolument la scène. Hein, dans mes mémoires.
Oui.
Voilà. Eh bien, le président Mitterrand avait souhaité déjeuner avec moi chez les Gallimard. Et il était sur le, à ce moment-là, tout à fait fasciné par Venise. Mais oui, vous savez qu'il a eu un petit appartement là, il s'est implanté, ce qui est une preuve de goût d'ailleurs. Et il disait, il était en train de découvrir Casanova. Et donc j'avais écrit un roman assez casanoviste, et là il était détruit. Et j'étais là, il était content, il me parlait de Casanova, de Venise, enfin bref, il voulait avoir une réputation un peu de libertinage, Mitterrand, vous savez ça. Hein, alors il s'assoit près de moi, il me dit, ah voilà le terrible monsieur Solers. Et il me prend le bras comme ça, et il me dit, ah, j'espère que vous faites attention à votre santé. Et je me suis demandé s'il n'allait pas m'offrir des préservatifs, parce qu'à ce moment-là, le sida...
Oui.
Voilà, c'était charmant.
Oui, charmant. Et vous dites quand même de lui qu'il était à la fois médiocre et subtil.
Non, c'est un mot...
Médiocre au sens latin, alors.
Au sens latin, oui. C'est-à-dire au sens que tous les hommes politiques me donnent comme sentiment d'être assez médiocre, quand on gratte un peu. Mais subtil, parce qu'il voulait... Il avait une certaine ambition d'apparaître comme un président littéraire.
C'en était un, plus que Giscard, quand même.
Plus que Giscard, qui ne se sont contentés de Maupassant. Les goûts de Mitterrand étaient assez conventionnels, c'est Chardonne, de savoir... Mais enfin, il aimait faire... Il voulait qu'on croie qu'il était littéraire et libertin. Ce qui est plutôt sympathique, c'est oui.
Alors,
non, vous ne trouvez pas?
Si, non, mais je trouve que le personnage valait peut-être mieux que ce que vous en dites, parce que...
Ah non, je crois qu'au contraire, je lui sauve la mise sur deux sujets très importants, oui.
Puis enfin, c'était lui aussi un acharné de la séduction, hein.
Alors, on le dit, en effet, oui. C'est ça. Son chauffeur le conduisait, oui, ça tout à l'heure, il devait cloisonner beaucoup, et on lui prête en effet des aventures.
Et parfois les aventures que son chauffeur partageait. Ouais.
Ah bon ? Ah oui, ça fait ça ?
Oui. Après ou en même temps ?
Mais pas le Labrador.
16h, 18h, Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été sur RTL.
Les grosses têtes de l'été avec Pierre Bellemare, Philippe Chevalier, Bernard Mabie, Jean-Jacques Perroni, Jean Amadou. Et en invité d'honneur, Philippe Solers, c'est Philippe Bouvard qui reçoit ces grosses têtes de l'été que l'on retrouve.
Préférez-vous définitivement les lignes de mots aux autres lignes ?
Alors ça c'est la fin, il a vu ça.
Oui, j'étais jusqu'à la fin. Hein, moi.
Oui, c'est ça. Ben non, ça passage, oui, c'est ça. Vous avez vu ce massacre de la 'Ndrangheta. Je m'intéresse beaucoup au phénomène mafieux planétaire, mais enfin bon, c'est parce que je crois que c'est un phénomène vraiment maintenant énorme. Hein,
enfin, vous avez eu recours, soyons clairs, au paradis artificiel.
Oui, ça, j'ai un livre de moi qui s'appelle H, c'est très déclaratif. Là, j'ai fait ça dans ma jeunesse, maintenant.
Oui.
Maintenant, je me laisse aller à une somnolence constante.
Non, pas du tout. Vous avez une ivresse naturelle, plus besoin de l'exacerber.
Voilà. D'accord, mais enfin, je connais un peu ça.
Qu'est-ce qu'une vie clandestine intense ?
Ça veut dire que par définition, vous ne le saurez pas.
Ah ben oui. Donc c'est une question idiote parmi d'autres, quoi.
Lessing, Doris, elle est marrante, vous savez, c'est cette vieille dame indigne, non conformiste, réfractaire. Etc. Alors elle dit, maintenant, on me pose tellement de questions stupides lorsqu'on veut m'interviewer que je refuse de répondre aux questions stupides, sauf en disant qu'elles sont stupides.
Ah oui.
Votre question ne
l'était
pas.
Elle est formidable, c'est la vieille anglaise à laquelle on vient de donner le prix Nobel.
Elle est énorme, il faut que vous lisiez Lessing, absolument, car Cardedor est un chef-d'œuvre, etc. C'est une femme extrêmement libre.
Quand on lui a appris ça, elle revenait de course, elle a des artichauts.
Avec ses capas. Ils ont mis du temps à lui donner le Nobel, à 88 ans. Voilà.
Elle est assise sur son escalier d'un pavillon de banlieue.
Ouais, les féministes l'ont beaucoup soutenue, puis à un moment donné, elle les a critiquées d'une façon très acerbe, en disant qu'elles avaient déconné complètement en jouant contre les hommes, et qu'elles avaient perdu par manque d'humour, ce qui me paraît très, très, très intelligent.
Est-ce que vous associez toujours dans votre souvenir mathématiques et déculottées ?
Non, parce que oui, ça c'est la seule tentative pédophile que j'ai subie. En effet, c'était un professeur de mathématiques qui m'avait trouvé mignon et qui m'avait dit « Si vous continuez comme ça, je devais être dissipé. Vous avez vu que j'ai des mauvaises notes. » Qu'il me déculotterait et me fesserait devant toute la classe. Je ne l'avais pas saisi sur le moment.
Ça vous a incité à travailler mieux ?
Non, ça m'a incité à écouter. C'est ce curieux allaitement qu'avaient parfois les adultes à mon contact, oui. Mais comme j'étais adultophile, ça ne me gênait pas, je savais choisir mes adultes, plutôt dans le genre féminin. Les avances d'hommes ne m'ont jamais convaincu.
Sauf celles de votre éditeur.
Non, non, pas du tout.
Vous êtes-vous donné plus...
Les avances vraies, oui.
Oui, hein. Oui, vraies, monétaire, celles qu'on va toucher à la caisse,
bah, écoutez,
pas dans la culotte.
Les seules qui comptent, vous, entre hommes.
Vous êtes-vous donné plus de mal pour être réformé que le service militaire ne vous aurait causé de peine? Parce que dites-donc, c'est presque un manuel du petit réformé. Bon, vous me direz qu'aujourd'hui, il n'y a plus de service militaire. Alors.
Oui, bah alors à ce moment-là, excusez-moi, moi j'étais obligé, c'était au moment de la guerre d'Algérie, je ne voulais pas...
qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour y échapper, dites-donc?
Oui, mais il faut passer des 3 mois en hôpital, et puis je donne quelques conseils même pour des gens qui voudraient
s'échapper. Des conseils pratiques, hein?
Des conseils pratiques. Par exemple, pour perturber un électroencéphalogramme, il faut grincer légèrement des dents. Non, là, c'est des trucs qu'on se refile entre réfractaires dans les hôpitaux. Là, ça a été assez dur. J'ai maigri quand même de 20 kilos, grave de la faim. Pas de... Ça a été la galère, là. Oui.
Oui.
La France, à l'époque, était quand même un pays de chiens. C'était bon. Et il fallait. Moi, j'ai vu beaucoup de gens esquintés. J'ai beaucoup d'amis qui sont morts, qui ont été esquintés complètement, là. Hein. Attention. Sérieux.
Vous êtes arrivé quand même à y échapper. Hein,
mais... J'y ai échappé grâce à Valroux, je raconte. C'est que c'est des gens, je commençais une grève de la faim, donc je déclinais assez rapidement quand même, ce qui est embêtant. Et là, quelqu'un a prévenu Valroux, qui était alors au sommet, et qui m'a fait libérer. Réformé numéro 2, c'est merveilleux. Je suis réformé numéro 2, sans pension, pour terrain schizoïde aigu.
Bon, voilà, numéro 2 comme moi.
Oui.
P2, moi.
Mais alors, j'ai remercié Malraux, qui m'a envoyé une des plus belles lettres que j'ai reçues de ma vie. C'est une carte de deuil, d'ailleurs. Il m'a dit, c'est moi qui vois, le style, le grand style, Malraux. Ah, oh mon Dieu, ça manque, ça, aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, monsieur, d'avoir pu rendre au moins une fois l'univers moins bête.
Oui, oh, on était quand même merveilleux, ça.
Vous êtes nous des ministres encore comme ça.
Vous êtes collectionneur, hein, et pas seulement de vos bons mots, mais également des dédicaces flatteuses.
Bah, je fais mes mémoires, donc il faut bien que je raconte.
Qui vous ont été adressées. Hein.
La plus belle, celle à laquelle je tiens le plus, c'est la réédition des Manifestes du Surréalisme en 1962 d'André Breton. C'est une fine écriture bleue, c'est pour Philippe Soler, Aimer des fées, F-E-E-S, signé André Breton. Bon, voilà. Alors, ça, c'était quand même...
Ça vaut cher, surtout s'il y a un petit dessin avec.
Il n'y a pas de petit dessin avec, c'est pas le genre de Breton, mais la formule...
Il y en a même une de...
La formule me touche beaucoup.
Parmi les pièces justificatives, il y en a une de Houellebecq.
Oui, c'est pour plateforme.
Oui.
Pour Soler, pour les femmes, pour le sexe, pour tout. Non, oui. On est assez copains. Il a un peu disparu dans le cinéma. Je ne sais pas ce qu'il fabrique en ce moment. Mais j'aime bien Houellebecq, oui.
Oui,
c'est un très bon écrivain d'aujourd'hui.
Ah oui, oui. Bah,
non
oui. Ah ben bah, oui, oui. Moi, je n'ai pas été au bout du dernier, mais lui, oui, d'après ce qu'on m'a dit.
Enfin.
Et alors, vous avez été découvert comme Sagan par Mauriac?
Alors, je pense que oui, ça doit être ça.
Eh oui, Mauriac a fait le premier
papier. Il a fait
sur Sagan. Il en a fait un grand sur vous aussi, dans l'Express.
Oui, c'est ça, l'Express de l'époque.
Donc, oui. Ça, il avait des choses qu'on n'oublie pas.
Il avait son bloc-notes, oui, c'est ça.
Que ce sont les affinités bordelaises.
Oui. Et je vais vous dire, monsieur, vous avez déjà entendu cette voix merveilleuse de Mauriac. Et vous lui disiez, alors, il était allé recevoir son prix Nobel à Stockholm. Il dit, j'arrive, n'est-ce pas, on m'a emmené dans un temple protestant, mais j'ai d'une tristesse, il n'y a pas la petite lumière rouge. On dirait que ces gens-là n'ont pas d'âme.
Très belle imitation de François Mauriac.
Il avait interrompu Suzanne Gabriello à l'Olympia
très
de son banc. Le journal avait dit François Mauriac a crié. Non, jamais. Il n'a jamais crié de sa vie, je veux dire. Il a murmuré.
Il détestait les dictatures, quelles qu'elles soient, ce qui est quand même. Politiquement, il faut relire son bloc-notes, qui est formidable. Vraiment, il a vu des choses.
On ne relit pas assez, monsieur Solon.
Et on ne lit pas du tout, alors comment voulez-vous qu'on relit?
Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard.
C'est sur RTL. Et tout de suite, on retrouve Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été.
Pensez-vous vraiment que la sieste est divine?
Oui.
Mais à deux?
Oui, la sieste est divine, non, parce que c'est le moment, je crois, où on peut dormir presque sans rêve, sans, ouais, voilà. Ah, si on a fait ce qu'il faut, évidemment.
Il faut boire. Qu'est-ce que vous appelez dans la journée, faire ce qu'il faut.
Mais bien manger, un bon repas.
Chacun son style. Mais je suis persuadé que si vous n'avez pas de souvenir de sieste divine, c'est vraiment que vous n'avez pas vécu.
Ouais. Non, ouais, ouais.
J'en appelle à tous mes camarades.
Bien sûr.
Et au public, même. Laisse la sieste.
Vous prêchez un converti, mais la sieste, c'est quand même du temps qui est soustrait à la vie.
Pas du tout.
Pas du tout,
si elle est crapuleuse, au contraire, c'est du temps ajouté à la vie.
C'est du bonheur ajouté
c'est
à
du
la
bonheur,
vie.
Voilà, c'est oui. ça. Alors évidemment, on ne peut pas faire la sieste tout le temps, parce que nous sommes des travailleurs.
On a des obligations.
Mais il y a des moments où on peut la faire, dans des lieux très divers d'ailleurs.
Ah oui,
dans sa voiture.
Notre ami Thierry Roland, il vient la faire ici.
Et... Je veux savoir par quel phénomène, moi, ça m'a toujours donné mal au cœur.
La sieste. Ah oui, quand tu te réveilles après, tu te réveilles
après. C'est parce que tu as mangé trop lourd avant, peut-être
parce que vous avez eu des peines de cœur.
Tu faisais ça sur un bateau.
Non, c'est voluptueux, c'est parce que par définition, on se repose pendant que les autres travaillent, en plus. Hein.
Oui, mais il y a quelque chose, dormir le jour, je ne sais pas.
Ça. Oui, c'est ça que les autres n'ont pas.
Oui,
c'est un plaisir égoïste.
Oui, c'est ça, voilà, ça doit être ça.
Quand tout s'agite autour de vous.
Dormir quand tout le monde dort, je ne sais pas.
C'est un peu vulgaire, finalement.
C'est
quand je commence une sieste...
Ça fait grégaire.
En général, quand je commence une sieste, je me dis qu'il y a des cons qui bossent en ce moment. Et je m'endors comme un bébé.
Alors, on peut s'endormir aussi la nuit en pensant qu'il y a de l'autre côté des gens qui se lèvent.
Ah oui,
ceux qui ont la tête en bas.
Voilà.
Oui, mais c'est les étrangers, on s'en fout.
L'interdiction de fumer va perturber votre vie.
Certainement, mais je m'adapterai. Je me fumerai tout seul. Je m'arrangerai. Je trouve ça scandaleux. Je trouve que c'est une mesure. Quand vous allez à New York, vous voyez tous ces gens en bas des tours qui viennent de cloper. Oui, remarquez que le 11 septembre, ça a peut-être ça a sauvé la vie à certaines personnes. Je trouve que cette prise en main de la société de par tous les bouts me paraît très suspecte.
C'est la génération de 68, je veux dire. Il est interdit d'interdire.
Oui, tu parles, c'est ça. Ouais.
C'est elle qui est au pouvoir quand même.
Avec un président de la République qui a déclaré devant des milliers de personnes qu'il fallait éradiquer, liquider 68. Vous avez bien entendu le mot liquider.
Ouais. Mais vous n'aurez qu'à garder votre fume-cigarette légendaire.
Absolument,
et puis renoncer au tabac.
Par provocation. Comme ça dans les lieux publics.
Il a le goût du tabac, je suis sûr.
Oui, c'est ça.
Bon,
un souvenir. Vous vous rendez compte qu'il va falloir non seulement retoucher toutes les photos. On a déjà enlevé le club de Jean-Paul Sartre. Club de Malon. On va être.
Et alors, il faut. De Lucky Luke.
Il faut décloper toutes les photos.
Il faut
nettoyer tous les films.
Il faut interdire toute la projection.
Dans
la collection
Folio. Que devient un Fred Bogart sans cigarette.
Dans la collection Folio, les anti-mémoires de Malraux, c'est le photo noir et blanc et Malraux a la cigarette.
Ah bon ? Une photo célèbre de Gaulle à Londres, au Carlton Garden. Il est
avec un cigare.
Il a une cigarette.
On voit bien que tous ces gens étaient malades. Il faut nettoyer.
Un vrai roman, c'est le titre du livre que présentait Philippe Solers aux Grosses Têtes en octobre dernier. On le retrouve, Philippe Solers, aux côtés de Philippe Bouvard.
Vous n'avez pas lu encore le livre de Monsieur Solers, vous, hein ?
Non, parce qu'ils n'ont pas l'air réveillés, en effet.
Bon, on vous écoute.
Ah, c'est gentil.
Moi, j'ai commencé Femme il y a quelques années.
Il l'a pas fini.
Non, je suis dessus parce que je suis sur plusieurs livres en même temps. Puis les femmes, c'est infini, on n'en voit jamais le bout.
Est-ce que ça tient le coup ?
Oh, je pense que ça tient le coup, ça va dépendre de moi si je ne débande pas.
Comment tu parles, monsieur Solaire ?
Vous dites, les femmes, on n'en voit jamais le bout. Si on voit le bout, c'est que ce n'est pas des femmes. Hein.
Mais j'avais beaucoup aimé le joueur.
Ah, merci beaucoup.
Le joueur, c'était très bien.
C'était pas Dostoïevski ?
Mais non, recouche-toi, toi là-bas.
Portrait du joueur, oui. C'est le titre fait écho.
Moi, j'ai bien aimé Les Misérables.
C'est pas mon meilleur.
Avez-vous souffert d'être né et d'avoir grandi sous le nom de Joyau ?
Alors, il y a deux choses. D'abord, c'est un nom magnifique, parce qu'en effet, ça brille, mais ça brille trop. Donc, les inconvénients sont immédiats.
C'est-à-dire des brocards de la part de...
incessants. À l'école. Ce joyau, vous ne brillez pas particulièrement aujourd'hui. C'est ça. Ce joyau n'est pas une perle.
Ce garçon.
Etc. Bon, donc c'était incessant.
Alors, et Noyau, et Boyau, et voilà. Bon.
Ah, donc, j'ai connu ça, moi, avec un Bouvard, Buvard, Bouvard,
voilà.
Ah, moi, Mayou, qu'est-ce que vous pensez?
Oui.
On a entendu, hein, les mèches et briquets et tout ça. Je connais ça par cœur, moi.
Et voilà. L'assistance contre les noms.
D'autant plus que la vraie définition d'Amadou dans le dictionnaire, c'est vieux champignon de GG. Donc ça fait. ça me choque un peu.
Vous n'étiez quand même pas un handicapé patronymique. Il y a pire.
Il y a pire, bien sûr.
Il y avait un producteur qui s'appelait Borcu, qui était un producteur qui venait de l'Est.
Il s'est appelé Borcadre.
Non, qui s'était établi en France, puis bon, il en avait assez de qu'on se foute de lui. Alors il avait été demandé un changement de nom, ce qui lui avait été accordé. Oui. Et quand il est revenu, il dit « Alors, comment tu t'appelles maintenant ?» Il dit « Maintenant, je m'appelle Borcon. »
Grosse tête de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL.
Ancienne enseignante de philo, devenue prof de langue dans les 35 pays où il est désormais joué et publié, Éric Emmanuel Schmitt a fait plus confiance aux libraires qu'à la poste pour nous donner de ses nouvelles. Des bonnes nouvelles. Sa rêveuse d'Ostende est une petite cousine d'Odette Tout-le-Monde. Pressé de questions, Schmitt avoue sa passion pour la choucroute, pour les saucisses, pour les dialogues, pour la réalisation de cinéma et même pour la mise en scène théâtrale. Il a trouvé en Belgique le climat idéal pour sa santé, sans doute aussi pour ses économies et pour des héros qui, comme lui, aux moments les plus imprévus et les plus douloureux de leur existence, se retrouvent immanquablement sur les rivages de la mer du Nord. Étrange personnage, qui a la carrure d'un lutteur, la finesse d'un théologien et l'imagination d'un grand romancier. Et je dois vous dire que depuis votre dernière visite, il s'est passé des choses, c'est-à-dire que le vieux cheval du radio-rodéo est mort d'épuisement et nous l'avons remplacé par la garde à vue. Combien avez-vous touché des syndicats d'initiative pour affirmer qu'il y a plus de mystère et de charme dans l'Europe du Nord que dans celle du Sud ?
Mais c'est vrai que moi j'aime la mer du Nord parce que c'est une mer discrète, c'est une mer effacée, mais par contre la côte belge est totalement détruite par...
Ah oui, ça vous le dites, oui.
Oui, ça je le dis quand même. Hein.
Pourquoi
elle est détruite par le tourisme de masse, c'est-à-dire que...
Ah bah oui, ils vont bronzer là-haut.
Il y a des buildings, il y a des...
Non, oui, parce que là, Ostende, il y a à la fois des très belles maisons du 19e siècle de l'époque de Léopold.
Des immeubles
immondes.
Et puis
à côté, des barres d'immeubles, le degré zéro de l'architecture. Et en même temps, comment critiquer, c'est ce qui permet aussi à tout le monde d'aller à la mer, mais en même temps ça fait une ville un peu baroque où il y a des bijoux qui restent du 19e siècle et des horreurs qui sont malheureusement de notre siècle.
Léo Ferré avait chanté au stand, hein,
oui, avec Jean-Roger Cosimon, c'était une chanson qu'ils avaient écrite ensemble.
Pourquoi vos narrateurs sont-ils si souvent des écrivains qui se réfugient en Belgique?
Bah oui,
oui, il y a une constante, hein, là.
C'est vrai.
Oui.
Bah écoutez, c'est vrai que moi je me...
Pour des raisons de climat ou des raisons fiscales?
Ces écrivains, c'est pas moi généralement, même si parfois ils me ressemblent. Non, c'est des...
Est-ce que vous seriez capable de raconter les aventures d'un plombier zingueur qui débarquerait à Tahiti?
Oui, je vous fais le pari qu'au prochain livre...
Oui.
Allez, je relève le...
Le gant.
Votre passion pour la choucroute et les saucisses influe-t-elle sur le choix de vos personnages?
Non. J'ai eu le malheur d'avouer que mon plat préféré, c'était la choucroute, comme mon nom l'indique.
Oh, c'est bon,
Schmitt.
Vous êtes alsacien.
Oui. Et
C'est vachement bon. Ouais.
C'est bon.
Mais même en plein été.
Mais surtout, c'est comme l'andouillette au mois d'août, toujours.
Mais c'est un plat merveilleux, la choucroute. Ah, on peut varier les accompagnements.
La choucroute de poisson, non? Non.
Oui,
non,
aussi.
Ah,
aussi.
Ah, oui, c'est très bon.
C'est très bon.
Au champagne.
Si le royaume de Belgique connaissait une scission, reviendriez-vous en France ou il faudrait choisir entre les deux communautés, hein?
Ah oui, non, mais moi, je suis
bruxellois.
Moi, je suis bruxellois et installé pour des raisons totalement d'ordre privé.
Vous n'envisagez pas d'écrire en flamand, quoi?
Non, mais ce qui se passe, à mon avis, est très utile en ce moment là-bas. C'est-à-dire que c'est une catharsis. Ils sont en train de se vider de tout ce qui ne s'était pas dit. Je pense qu'il fallait entendre les extrêmes, mais c'est quand même les modérés, comme dans chaque pays, qui vont s'entendre pour arriver à faire quelque chose.
En attendant, ils sont aperçus que sans gouvernement, ils dépensaient beaucoup moins.
Oui, et ça marchait très bien.
Ça va très bien.
Non, mais
on devrait faire pareil ici.
Ce qui est amusant, c'est que ce pays qui n'est pas du tout nationaliste a tout d'un coup pris conscience qu'il existait, même s'il existait d'une façon bizarre.
Ouais, c'est vrai,
et
ouais.
À Bruxelles, les drapeaux...
Ils mettent des drapeaux. Ils
fleurissent sur les balcons et sur les fenêtres. Ce qui est incroyable. On a l'impression qu'ils ont gagné la Coupe du Monde.
Oui, c'est vrai.
Alors qu'en fait, ils ont pas de gouvernement, tout simplement.
Est-ce que c'est parce que vous êtes d'abord un dramaturge que les gens dialoguent autant dans vos romans et vos nouvelles?
Ah oui, je crois que...
Oui.
De toute façon, la nouvelle, je crois que c'est un art qui convient aux hommes de théâtre. Parce que dans la nouvelle, on retrouve le pouvoir qu'on a au théâtre de prendre le spectateur par la main au début et de l'emmener jusqu'à la fin du spectacle. Parce que quand on écrit un roman, on sait que...
Sauf que la nouvelle, c'est un acte, alors que le roman, c'en est trois.
Oui, mais en même temps, on ne sait pas, quand on écrit un roman, si on va être lu de façon continue.
Oui.
Tandis qu'on a l'illusion dans la nouvelle de pouvoir tenir le lecteur par la main et du coup, elles sont toutes...
Alors, est-ce que vous savez, par expérience personnelle, comment le lecteur lit un de vos livres?
Oh, écoutez, alors ça m'est arrivé une seule fois. Moi, j'étais un homme de théâtre, donc heureux de voir toujours le spectateur réagir, ou parfois malheureux quand je me rendais compte que je m'étais planté. Mais j'avais l'habitude de vérifier ce que je croyais être drôle ou émouvant dans la salle. Et je disais toujours, c'est terrible, quand on écrit un roman, on ne voit jamais. Et un jour, je monte dans un TGV, avec les places réservées, et je vais m'asseoir à côté d'un monsieur qui avait un de mes livres, qui me dit même pas bonjour d'ailleurs, et qui me reconnaît pas. Je m'assois à côté de lui et je me dis, je vais enfin voir comment réagit quelqu'un qui lit un de mes livres. Il a ouvert le livre et il s'est endormi.
Non. Le meilleur des grosses têtes, c'est jusqu'à 18h sur RTL. En novembre dernier, Éric-Emmanuel Schmitt était l'invité d'honneur pour son tout nouveau roman. Il est aux côtés de Philippe Bouvard et on le retrouve tout de suite.
Pourquoi vos héroïnes et vos héros ont-ils rarement des vies sexuelles normales?
Et ils ont toujours des... Oh, vous avez remarqué ça?
Ah oui, drôlement. Parce que je me suis dit, les pauvres gens, mais peut-être que s'ils avaient une vie sexuelle normale, ils n'auraient pas droit à
un roman.
À un roman.
Non, je crois que dans mes livres, la sexualité est toujours positive, mais il y a effectivement...
positive, attendez...
Mais il y a le chemin pour y arriver.
Oui, enfin, c'est souvent des sexualités anciennes, parce qu'il n'y a pas que des perdreaux de l'année. Hein.
Vous pensez à la rêveuse d'Ostende?
À la rêveuse d'Ostende, qui prend d'ailleurs dans ce livre de nouvelles la relève de sa devancière, qui a eu beaucoup de succès, Odette Tout-le-Monde.
Oui.
Ah, chère Odette.
Ah ben, la rêveuse d'Ostende, c'est une femme qui est allée jusqu'à écrire... Un menu pour son amant, des plaisirs qu'elle peut lui proposer le soir. Parce que, et alors elle a écrit ça de façon très, très élégante, très fantasmée, mais en fait, en même temps, elle raconte des vraies cochonneries.
Ah oui, attendez, moi j'ai le menu sous les yeux, là. Hein.
C'est la charcuterie.
C'est plutôt...
À Ostende, non.
C'est plutôt égrillard. Alors, elle lui propose la joueuse de flûte. Monseigneur sera la flûte et moi la musicienne.
Oh, c'est joli.
C'est sympathique, ça.
Belle métaphore.
C'est pas mal. Elle dit, je tiens à préciser que je m'adonne à la flûte à bec comme à la flûte traversière.
Ouais.
La première se saisit dans la bouche, la deuxième se caresse sur le côté.
Oh,
vous voyez que c'est une technicienne, elle a dû faire le conservatoire.
Oui, non, on sent qu'elle sait où il faut mettre les doigts. Hein.
Mais c'est comme au restaurant, c'est-à-dire que quand c'est au menu, c'est moins cher qu'à la carte.
Il n'y a pas de menu, c'est complètement à la carte.
Il y a aussi, vous en souvenez, l'ours et la ruche.
Ah oui, l'ours et la ruche.
Alors, Monseigneur sera un ours courant après le nectar des fleurs, tandis que je figurerai la ruche inabordable, aussi malaisée à trouver qu'à atteindre. Puis, lorsque l'ours aura assuré une position qui rend la chose praticable pour lui comme pour moi, je l'autoriserai à dévorer mon miel avec sa langue inépuisable.
De l'expression bourrer la ruche.
Ah, c'est une vaillante petite abeille, hein, dedans.
Voilà. Mais en même temps, c'est
poétique.
Elle ose dire qu'elle veut pas que ça se passe chaque soir de la même façon. Elle veut que ça soit raffiné, que ça soit sophistiqué.
Vous avez son téléphone, oui, bien,
bon. Et quand on n'y arrive pas, on a le bourdon.
Voilà. Vous pensez pas que chaque femme devrait avoir comme ça un modus vivendi, un menu, des spécialités?
Moi, je trouve que souvent le problème dans les couples, c'est que on n'ose pas parler de ses fantasmes. Non. Alors si on les écrit et qu'on en fait le menu. Et là, les deux personnages, lui comme elle, ont chacun écrit un livre avec le menu de ce qu'ils aiment. Mais alors écrit de façon comme ça métaphorique. Et du coup, en fait, je suis sûr que ses amants partagent des moments de plaisir encore plus grands que s'ils se contentaient d'improviser à peu près toujours la même chose en se jetant l'un sur l'autre. Non, c'est voir la sensualité comme un art, comme de la grande cuisine.
Et même après, quand il n'y a plus de sensualité, le souvenir qui est encore un plaisir prolongé.
Parce que cette femme, elle est la rêveuse de sang, elle est à la fois sensuelle et d'un romantisme absolu.
Elle est bien vieille hein, quand vous la traitez. Hein.
Oui, mais je raconte sa jeunesse.
Ah, bah, oui.
Bouvard et les grosses têtes de l'été,
7 jours sur 7,
c'est sur RTL.
Question de Madame Potiez d'Aubergenville, qui a dit « Je suis exténué. Ce matin, j'ai retiré une virgule d'un de mes poèmes et ce soir, je l'ai remise. »
Mallarmé ?
Non,
Verlaine.
C'est pas de chez nous.
Ah, c'est pas de chez nous. Rilke ?
Non.
C'est quoi, anglais-américain ?
C'est anglais.
Ah, c'est anglais.
Oscar ? C'est Oscar Wilde. Ouais. Bonne réponse de Jacques Balutin. Et la deuxième citation envoyée par Madame Legrand, qui a dit « Si l'on construisait la maison du bonheur, la plus grande pièce serait la salle d'attente.
Ah, c'est joli, ça.
C'est joli.
Qu'est-ce que c'est beau.
C'est français.
Courteline. C'est français, c'est mort.
Ouais.
C'est mort.
Et c'est du début du 19e dans ces eaux-là.
Fin du 19e.
Fin du 19e,
je ne sais pas. Allez, c'est Jules Renard. Bonne réponse d'Éric Emmanuel. Ça, c'est nouveau aussi, c'est pour regarder la télévision au volant. Alors, vous me direz que c'est pas indiqué. Ça se greffe sur le petit écran du GPS.
Du GPS, oui. C'est bien.
Et vous avez toutes les chaînes gratuites de la TNT. Heureusement...
C'est permis, ça.
Heureusement, se coupe dès que le véhicule atteint 7 km à l'heure.
C'est quand même dangereux, parce que vous pouvez écraser une vieille. Voilà. À 7 km. Vous passez sur une vieille à 7 km à l'heure, c'est du petit bois.
Je crois que ça se coupe dès que la
ou une poule dans la campagne. T'as un embouteillage à la campagne, t'as une poule qui passe, paf, en avant les castagnettes.
Bon, écoutez, il ne faut pas refuser le progrès. Hein.
Non, ça c'est vrai.
Ouais. Hein. Non, mais c'est pas mal, je trouve, de regarder la télé en conduisant.
C'est bien.
Attends, c'est déjà dangereux le GPS. Alors, en plus,
quand est-ce que vous reprendrez? Pourquoi les petits pois sont-ils verts?
Ça, c'était ma première pièce quand j'avais 16 ans. Ça s'appelait Grégoire ou Pourquoi les petits pois sont-ils verts? Comme quoi déjà le philosophe sommeillait avec le sens des questions essentielles. Pourquoi les petits pois sont verts?
Alors que les petits pois sont rouges, normalement.
Oui, en plus.
Merci.
Et ça, tu sais qui disait ça? C'est De Gaulle qui disait ça.
Et Éluard disait « La terre est bleue comme une orange ».
Oui.
Hein, alors, les goûts et les couleurs, hein.
Il devait se marrer chez les De Gaulle.
Ah oh, ben le général n'était pas triste,
oui,
hein.
Oui.
Non, non.
Ça se voyait sur la tête d'Yvonne, hein.
Quelle suite avez-vous donné aux aventures d'Arsène Lupin?
Ah, ça c'est le tout premier livre que j'ai écrit, j'avais 11 ans. J'avais lu tous les Arsène Lupin qu'avait mon père. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, en fait. Je supportais pas que ce personnage soit mort. Enfin, en tout cas, qu'il n'y ait plus de livres. Et donc, j'ai acheté un gros cahier rouge. Et j'ai écrit sur la première page une nouvelle aventure d'Arsène Lupin par Éric Emmanuel Schmitt, édition Le Colibri. Je me suis fait éditeur en même temps qu'écrivain. Et j'ai écrit une nouvelle aventure d'Arsène Lupin. Ça a été mon premier livre. Mais c'est très symptomatique parce que on écrit les livres qui nous manquent. Et ça, ce qui me manquait à l'époque, c'était un Arsène Lupin. Donc j'ai écrit mon premier livre, c'était un Arsène Lupin. Je n'ai jamais fini, hein, pour dire la vérité. Mais je l'ai toujours.
Oui, mais ça aurait eu du succès, sûrement.
Mais d'autres l'ont fait depuis. Hein,
Le Blanc, il l'a tué plusieurs fois et chaque fois, il est obligé de ressusciter.
Oui, il avait une haine totale de son personnage.
Il ne supportait plus, mais chaque fois, et Dieu sait qu'il a tout fait sauter d'une falaise, mort, terminé. Et l'année suivante, il recommençait.
Oh, dites donc. Là, il y a le bordel de Madame Georges. Qu'est-ce que c'était que ça,
Madame Georges?
C'est le truc de Bordeaux, non?
Madame Georges, Madame Claude.
À Bordeaux?
Madame Georges.
À Bordeaux ?
Où ? La Trappe Madame.
Oui, oui.
Ah,
la Trappe Madame.
Ah oui, alors là, là aussi, là, c'est pas à mettre entre toutes les mains, hein.
C'est-à-dire, c'est le personnage d'un des personnages du livre qui apprend la sexualité à la fois dans les livres et en fréquentant, mais de façon tout à fait respectueuse, le bordel qui est à côté de la maison de son père. Et donc, elle dit qu'elle a appris l'amour comme un cuistot, c'est-à-dire en étant dans les cuisines. Donc, elle est dans le salon bleu où sont les filles avant et après. Et elle a toute une initiation sexuelle qui est en fait purement verbale et qui lui vient du fait qu'elle fréquente les prostituées de Madame Georges. Tout ça est en Afrique, au Congo. Et parfois, elle a même droit d'utiliser la trappe Madame, c'est-à-dire la petite trappe qui permet à la maquerelle de surveiller ce qui se passe dans une chambre.
Ah, ah oui, vous avez l'adresse du truc, là, non ?
C'est en Afrique.
Non, mais c'est bien.
Ça à Bordeaux, vous avez vu, c'est
Madame Agnès. Madame Agnès.
Là, c'est pareil. Hein.
Qui a dit d'ailleurs devant les juges qu'elle n'avait jamais fait de mal à personne et au contraire qu'elle avait fait beaucoup de bien.
Bien sûr.
Évidemment.
À tourner, il y a plein de ça, c'est plein
elle
de options.
Je ne citerai pas le nom de Philippe Beauvoir.
Les grosses têtes de l'été jusqu'à 18h, mais la nuit aussi. Dormir, pourquoi faire ? Il y a mieux à faire la nuit. Retrouver les grosses têtes, par exemple, entre 3h et 5h du matin. Oui, les grosses têtes, c'est même la nuit sur RTL. Mais pour l'heure, voici le retour de Philippe Bouvard et de son invité d'honneur, Éric-Emmanuel Schmitt, qui venait nous rendre une petite visite en novembre dernier pour nous présenter son dernier roman, La rêveuse d'Ostende.
Alors le deuxième, parce qu'il y en a cinq personnages, est une femme qui devient criminelle parce que elle doute de l'amour de son mari. Elle a une façon très originale de l'assassiner, hein.
Ah ben c'est vite fait, c'est-à-dire que c'est en montagne, en Savoie, elle se dit au prochain tournant, je le pousse dans le vide. Et elle ne faiblit pas, elle y va, elle se jette sur lui et elle le pousse dans le vide. C'est une nouvelle, c'est une histoire sur la violence intérieure des femmes et sur le fait que cette femme, au fond, crevait de ne pas dire ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle-même, c'est-à-dire un doute profond sur son mari qui cachait en fait.
Mais là aussi, il faut garder la fin.
Mais qui cachait aussi un doute sur sa propre séduction à elle, parce que quand on doute de l'autre, c'est souvent qu'on doute de soi. Et voilà. Et cette femme va, après la mort de son mari, va jouer la thèse de l'accident et va à son procès raconter l'histoire de son couple parfaite, comme une histoire divine, comme un couple éternel.
Il y a un berger qui l'a vu.
Voilà. Mais en même temps, jouant la comédie de l'amour parfait.
C'est Yvan Colonna qui était là.
C'est la réponse du berger à la bergère.
C'était l'heure du berger.
Alors là, la troisième est une infirmière pas très gâtée par la nature.
Et c'est ce qu'elle croit.
Et elle a un malade aveugle qui tombe amoureux d'elle. Oui. Ça, c'est aussi une belle idée.
Et tous les jours, lui dit quel bonheur d'être soignée par une belle femme, alors qu'il ne la voit pas. Et puis, en fait, elle va découvrir qu'elle a des trésors de séduction qu'elle ignorait. C'est-à-dire, d'abord, elle sent bon. Elle a une odeur que cet homme à femme trouve absolument divine.
Homme à femme, il a sept compagnes autour de lui.
Il a
sept
maîtresses dont elle n'arrive pas à savoir si elles sont successives ou simultanées. Et d'ailleurs, on ne le saura jamais.
Il les fait brailler.
Et... Bravo, là, là.
C'est Jean-Yann qui avait dit avant vous, cher Philippe Chevalier, la preuve que l'amour est aveugle, c'est que les gens qui le font braillent.
Sept maîtresses,
c'est pas mal.
Il est dur de la canne.
Une par jour de la semaine, c'est pas exorbitant. Hein.
Ah oui, de toute façon, un aveugle, il en a deux paires pour le prix d'une.
Après, il y a un professeur de lettres qui a de mauvaises lectures. Oui. Enfin, bon... Si tant est que de lire un gros roman policier, ce soit une mauvaise lecture.
Ben, c'est un homme qui méprise tout ce qui est roman, littérature et fiction. Vous savez, ces esprits très positifs qui ne croient qu'à la science, à l'histoire, etc. Et finalement, il s'est tellement tenu éloigné de tout ce qui était fiction qu'un jour, en vacances, en Ardèche, il est avec sa cousine et elle va acheter dans un supermarché un espèce de gros thriller bien sanguinolent, etc. Et comme il est intrigué par un détail sur la couverture, il va piquer ce livre à sa cousine et se mettre à le lire la nuit. Et en fait, cet homme qui n'a jamais fait marcher son imagination va délirer en lisant ce livre et va commencer à croire.
Mais ça se termine mal, là
ça
aussi.
Ça se termine très très mal. Mais ben, il a tellement réfréné son imagination qu'elle se venge. Et donc, il a l'impression que la maison
avec
d'Ardèche
un coup de
où il
théâtre,
est.
Théâtre qui est digne d'un des meilleurs polars, dois-je le dire au passage. Hein.
Vous pouvez nous raconter
Il n'en est pas question. Hein. Ou alors, il faut acquitter tout de suite le prix de, mettons, un forfait, 100 000 exemplaires.
Voilà, exactement.
Alors, ces confidences de femmes hein, qui font la trame de presque que tous vos livres, eh bien, les femmes se les font volontiers entre elles. J'ai un témoignage, là, d'Enrico Macias.
Il y a trois femmes qui racontent leur nuit précédente entre elles, comme ça. Alors, il y en a une qui dit, oh là là là, hier, j'ai rencontré un Italien. Il m'a fait l'amour 10 fois. Mais c'était exceptionnel. Oui, moi, c'est rien. Moi, j'ai rencontré un Français. Il m'a fait l'amour 15 fois. 15 fois. C'était fantastique. Je suis sur les genoux, mais tellement satisfaite. Mais tellement, c'est tellement bien. La troisième, elle dit, moi, j'ai rencontré un arabe. Et maniqué. Le frigo, la télé.
Il faut remettre ça dans son contexte. Enrico n'est pas raciste.
Ah non.
Retour dans le grand studio d'RTL pour les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard et son invité d'honneur aujourd'hui, Éric-Emmanuel Schmitt.
Question de Madame Legrand. Qui sont appelés les gardiens de la virginité?
C'est en Iran?
Les eunuques.
Non, c'est religieux.
Non, c'est les ceintures de chasteté.
C'est pas la virginité humaine.
C'est la virginité humaine. Et alors là, je vais vous mettre sur la voie parce qu'autrement, on n'en sortirait pas. Ça se trouve sur le corps humain.
Les lobes d'oreilles.
Gardien de la virginité.
Non.
Gardien de la virginité.
Des poils.
Qu'est-ce que vous faites avec les beaux lobes d'oreilles, vous, qui est rapport avec la virginité?
Il a des trucs avec
les
lobes d'oreilles. Il se fait des boucles d'oreilles.
Je les mets au chaud.
C'est chez l'homme ou chez la femme?
C'est des poils?
Alors, c'est plutôt chez la femme.
Ah. Mais plutôt.
Donc l'homme n'en a pas.
L'homme en a, mais il n'est pas appelé à s'en servir de la même façon.
Les seins?
Non.
Non, les gardiens de la virginité. C'est les genoux?
Les jambes.
Alors, c'est les
jambes.
Genoux.
Les jambes.
C'est les genoux.
Attendez.
Les cuisses.
Ah. Alors, c'est les cuisses.
Ah oui, parce que si elle n'écarte pas les cuisses, vous ne pouvez pas rentrer.
Je vois que j'ai affaire à un connaisseur.
Ouais. Vous venez de le dire tout à l'heure, que pour la jeune femme,
ce sont en fait les adducteurs.
Ah, les adducteurs.
Qui permettent de refuser l'accès.
Absolument.
Ah, voilà. Bonne réponse de Jacques Balut.
Ah oui, non, mais...
Je refuse l'accès.
Mais ouais, attends, comme
c'est joli les gardiens de la virginité.
Oui, c'est joli.
Magnifique. Je refuse l'accès. Tu fais le tour.
L'amour, c'est du sport. C'est essayer quand elle veut pas.
Ouais. C'est ce qu'on appelle l'accès internet net, quoi.
Oui.
Demander un rendez-vous à une jeune femme, elle lui dit oui, d'accord, mais je viendrai pas seule. J'aurai les gardiens de ma virginité.
Ah, c'est joli, c'est très joli.
Question de Monsieur Borin de Bougival. Pour quelle œuvre datant de 1619 le sculpteur Jérôme Duquesnoy est-il mondialement connu? Et je pose cette question à Éric-Emmanuel.
Le mannequin.
Bonne réponse de Mabille et d'Amadou, c'est le mannequin.
Il y a la femme aussi.
Ce mannequin piece, il y avait une très belle publicité en Belgique. On voyait le mannequin piece en gros plan. Et puis tout d'un coup, on voyait l'eau qui sortait des oreilles. La caméra s'éloignait et on découvrait les couches culottes. Les seules couches culottes imperméables.
Il y a une madame...
La Jeannette Pisse,
qui est reconnaissable parce qu'elle ne fait pas pipi de la même façon.
Bah, oui. Bah, oui.
Elle est dans une toute petite rue derrière une...
Oui, elle est moins gâtée que son mari. Hein. Oui. Question de Monsieur Moza. Comment se nomme le passe-muraille de Marcel Aimé?
Bernard Laporte.
Il a du mal à les passer, lui, au contraire. Jardin, du jardin, non, comme
du
ça.
Du quelque chose.
Du
et après, il y a un nom d'arbre.
Ah.
Du
chêne.
Du chêne.
Du chêne.
Du tilleul.
Du tilleul.
Du tilleul.
Bonne réponse d'Éric Emmanuel.
Du tilleul.
On parlait à l'instant des écrivains qui ne sont pas loquaces. Marcel Aimé, c'était vraiment le cas typique de l'écrivain pas loquace, puisque un jour, un journaliste a dit, monsieur Marcel Aimé, je viens de parier que vous me diriez au moins quatre mots. Il a dit, vous avez perdu.
Question de monsieur Poupert de Gagny. Quel guerrier belge, ayant eu les yeux crevés au combat, se fit guider par ses écuyers pour continuer à se battre?
Un guerrier belge ?
Alors, c'est un guerrier belge dont le nom est passé à la postérité, justement en raison de cet exploit. Et vous le connaissiez alors que vous étiez encore tout gosse.
Red Charles ?
Tout gosse, Charles...
Maillard, Colin Maillard.
C'est une femme, c'est une
Colin
femme.
Maillard. Bonne réponse de Bernard Mabille.
Colin Maillard était un guerrier belge.
Ça vient de là, dis donc.
Ah oui, Colin Maillard.
Colin Maillard. Vous ne saviez pas
Non.
Question de monsieur Lucas. Avant d'habiter au château de Moulinsart, à quelle adresse Tintin résidait-il?
Ah, alors c'est dans le petit 20e, ça.
Avenue Louise?
Non.
À Bruxelles?
Alors, je suppose que c'est à Bruxelles, puisque Hergé était belge. Hein.
Ah, grand,
dans les locaux du soir du
Grand Place, rue de la Frite, place de Bruquet.
Non, il lui avait donné.
Rue de la Frite, une fois.
Non. Alors, je pense que cette rue existe à Bruxelles, parce que je ne vois pas de traces.
Alors,
à Paris.
Alors, il y a la rue des Bouchers. La rue des Bouchers, non?
La rue des Bouchers? Qu'est-ce que je connais comme rue? Je ne connais pas des masques. Moi.
On voit les comédiens qui sortent après la présentation.
En face de Vincent. Oui, en face de Vincent.
Rue de la Paix.
Rue de la Loire. Rue de la Lune.
Non.
Rue Fabiola.
C'est une rue qu'aurait aimé François Mitterrand, sûrement.
Ah, rue Dieu.
Rue de la Rose.
Rue Mazarine?
Non.
Rue Potvin? Rue Potvin?
Rue Florentine? Rue Château Chinon?
Rue de Bièvre?
Rue de l'Écharpe?
Rue Jarnac? Coup de Jarnac?
Rue du Chapeau?
Rue de la Prostate?
Non.
Non. Rue du Chien qui Fume?
Rue du Chapeau? Alors, on n'est pas loin du avec chat le chien qui fume.
Rue du Labrador?
Rue du Labrador. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Et merci à Malik. Il habitait au 26 de la rue du Labrador.
Je me suis retrouvé sur la place de Bruquet à 4h du matin. J'arrivais de Paris parce que je travaillais le lendemain à Bruxelles, donc j'avais fait la route de nuit. Et je vais aller à l'hôtel Amigo. Personne. Un flic. Et je m'adresse à lui, je fais pour aller à l'hôtel Amigo. Et cet homme me fait, bon, vous allez prendre la première à droite. Et... Non, vous allez vous perdre, là vous ne pouvez pas. Vous allez revenir en arrière, prendre la deuxième... Non, vous ne pouvez pas non plus. Vous voyez le sens interdit, là. Vous le prenez 100 mètres, vous êtes à l'hôtel.
Et je l'ai. Ah, c'est vrai que pour le trouver, l'Amigo, c'est un vrai bordel. C'est introuvable. Maintenant, avec tous les travaux, en plus, ils ont cassé toute la galerie.
Tout autour d'Amigo sans savoir.
C'est l'horreur.
Mais tu pars des vitrines. Tu pars des femmes en vitrine, et puis après, ça va tout
seul. Bien sûr.
Non. Très dur à trouver l'Amigo.
Des plus jolies expressions belges que j'ai, c'est justement à cet hôtel où j'avais demandé une paire de ciseaux pour découdre un truc que j'avais, un fil, et la femme de ménage, femme d'étage, est rentrée, elle m'a donné les ciseaux, sur le pas de la porte, elle a fait, je vous préviens, n'est-ce pas, il coupe le beurre en été, hein. Elle a fermé la porte, elle a rouvert la porte, elle m'a dit, je voulais dire par là qu'il ne coupait rien, parce qu'elle a dit, ce conte français, il va pas comprendre.
C'est vrai qu'ils disent ça.
C'est très joli, elle coupe le beurre en été.
Ce qui est joli aussi, c'est la confusion de savoir et pouvoir.
Ah oui.
Parce que ça vient du flamand, ils disent ça, toujours savoir pour pouvoir.
Je ne saurais vous dire.
Voilà, moi que je me suis...
On
ne saurait savoir le temps de demain. On ne saurait savoir. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir. Ah ouais. Moi, quand je me suis installé, j'avais un problème de plomberie, etc. Donc j'appelle le plombier.
Il est venu.
C'est
en Belgique.
C'est en Belgique. Et je lui montre la chose et il me dit, ah, ça, je ne sais pas réparer. Je lui dis, mais enfin, il y a ça, non, je ne sais pas. Mais je lui dis, vous êtes plombier? Il me dit, oui, mais je ne sais pas. Mais je lui dis, vous êtes un imposteur? Il me dit, mais pourquoi vous me dites ça? Mais je lui dis, parce que je vous appelle parce que vous êtes plombier, vous ne savez pas réparer. Il me dit, mais je ne sais pas le réparer ce soir, je saurai le réparer demain. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous allez faire pendant la nuit? Vous allez apprendre la plomberie? Vous avez des manuels? Vous avez quelque chose? Il me dit, mais ne vous énervez pas, monsieur, j'ai pas la pièce. Je ne saurais avoir la pièce ce soir, je saurais avoir la pièce demain. Et là, je me suis dit qu'on était parti pour des années de Vos.
Jean Dutour, bonjour.
Ben, je ne saurais vous écouter parce que c'est une vieille expression française qui est à l'air belge.
Oui, c'est assez orthodoxe, finalement.
Ben oui, bien sûr.
Question de M. Fournier. Quelle œuvre fut dédicacée ou dédiée à ceux qui travaillent, à ceux qui pensent, à ceux qui souffrent.
Oh là là, ça doit être Zola, ça.
C'est le capital de Marx.
Toujours avec de l'admiration de Jean Dutour pour Zola.
Romain Rolland.
Non.
Barbus.
Non.
C'est français d'abord.
Oui. C'est français.
Le droit du travail.
Jaurès.
Non.
Léon Blum.
Non.
Est-ce que c'est un roman, d'ailleurs?
C'est un roman.
Ah, oui.
Ah, c'est un roman. Les Misérables.
Les Misérables. Bonne réponse de Bernard Mabille. Alors, monsieur Dutour.
Bah oui, on va chercher bien loin, ce qui est à côté de vous. Et c'est la vie, ça.
Je vous soupçonne de ne pas aimer le Père Hugo.
Ah si, j'aime bien le Père Hugo.
Ouais.
Ah, parce que c'est de Victor Hugo, les Misérables. Oui,
Vous croyez que c'était Luc Lamondon?
Schoenberg.
Il avait quand même la fibre sociale, Totor. Hein,
oui, oui.
Question de Madame Desroches de Groslay. Quel est le titre de l'opéra de Jean-Jacques Rousseau?
Ah, c'est...
Le Devin de Village.
Le Devin de Village.
Le Devin de Village, eh ben, vous l'avez dit presque en même temps. Éric Emmanuel Schmitt, notre invité d'honneur, et vous-même, notre invité académique. C'est l'unique opéra qu'on lui doit.
Il a bien fait de s'arrêter là, d'ailleurs.
Je crois que c'est... Ah oui. Ou quelque chose comme ça.
Je crois que c'est pas terrible, surtout.
Non,
sur
c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment...
Mais Colin et Colinette étaient les personnages, alors, non, du Devin de Village.
Ça, c'est possible.
Je crois que c'est un petit opéra qu'il a fait à côté.
Bien.
Je ne saurais pas vous dire. L'œuvre musicale de Rousseau ne m'est pas très familière.
Oui, Jean Dutour, je ne saurais vous dire.
Oui.
Je ne saurais.
Voilà.
Merci, monsieur Dutour. À demain.
À demain, monsieur Dutour.
Vous avez remarqué que je ne pose jamais de questions sexuelles à M. Dutour.
Oui.
Ben non,
jamais.
Ah oui,
c'est normal. Parce que là, il serait imbattable.
Faut pas essayer.
Je n'ai pas dit ça.
Il sait tout, alors évidemment.
Nous, vous pouvez en poser. Ouais,
ouais. Ah oui, mais nous, on n'est pas contre. Hein.
Ça nous rappelle des souvenirs.
Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard, entouré aujourd'hui par Philippe Chevalier, Jacques Balut, Bernard Mabille, Jacques Maillot ou encore Jean Amadou. Et on les retrouve tout de suite avec l'invité d'honneur, Éric-Emmanuel Schmitt.
Question de Madame Royer-Donfleur. Pour les femmes, que signifie l'expression « faire chapelle »
Ah, c'est se réunir, non? C'est
se réunir. Sexuel.
Eh bien,
c'est
non.
Se faire mettre un petit coup dans le tabernacle.
Non.
Mais c'est une expression qui n'est pas tellement
usée. C'est pas français.
Alors, c'est une expression du terroir.
C'est pas parler à voix basse.
Non.
C'est pas parler à voix basse. C'est pas
faire la cuisine ensemble.
Non. Elle a dit que c'était sexuel.
Vendre sur le marché.
C'est un peu sexuel.
Alors, je veux dire que c'est un peu sexuel pour quelqu'un comme Bernard Mabille qui pense qu'à ça.
Ah bon.
Mais pour les autres, non.
Non.
Merci de faire courir le bruit.
C'est faire quelque chose entre femmes.
C'est plusieurs femmes ensemble.
Se donner des recettes de cuisine.
C'est discuter d'un sujet commun qui a trait aux hommes ou quelque chose comme
c'est une réunion tupperware.
Alors, oui, attendez, je veux dire, on peut faire chapelle alors qu'on est seul.
Ah! Ah,
c'est jeûner.
Et on peut faire chapelle avec la main gauche ou avec la main droite.
C'est tenir le chapelet.
Non. Vous trouvez cette expression dans les très très vieux romans qui se situaient dans la province du 19e siècle. Et c'est uniquement les femmes qui font chapelle.
C'est parler toutes seules.
Non.
Elles font chapelle à la cuisine?
Eh bien, elles font surtout chapelle dans la grande salle à vivre.
Eh bien, elles font le ménage.
Des ablutions.
Avec de la cire?
Des ablutions?
Non.
Elles nettoient?
Non.
Des prières?
Non.
La grande salle.
Ah. Hein, on peut faire chapelle et prier en même temps, c'est pas interdit. Ah, mais...
C'est physique.
C'est physique, c'est un comportement.
Passer la serpillière.
Non.
C'est changer les meubles de place.
Les vitres.
C'est se mettre à genoux.
Non.
On fait chapelle à quatre pattes ou on fait chapelle debout?
On fait chapelle assise.
On fait chapelle assise.
Broder, non.
Peut-être.
On lit?
Non.
On réfléchit.
On tricote.
On tricote.
C'est parce qu'on a mal quelque part.
C'est le comportement qui consiste à se rapprocher du feu, donc de la cheminée, à soulever sa jupe pour
se chauffer les miches.
C'est les miches ou l'autre côté.
Et faire chapelle, c'est joli quand même.
Ah oui, très joli.
Oui, c'est beau.
D'où est-ce que ça vient? Ça fait comme une chapelle, ouais, comme une église avec, oui, la jupe. Ouais.
Parce que ça se fait.
Oh, il y a même des cathédrales.
Ouais. C'est pas le comte d'Artois qui un jour avait une de ses maîtresses comme ça, était devant le feu, la jupe relevée, il est passé, il a Saint-Louis. Bon, ça, pour moi, ça va, c'est assez cuit.
Alors, comment faire pour assister à toutes ces représentations lorsque on est un écrivain joué à travers le monde comme vous? Il faut aller à chaque fois.
Non, moi, j'essaye même pas. Non. Ah non.
Il faut attendre d'être invité.
Non. Je sais que voilà, j'ai la chance d'être tous les soirs d'avoir des rideaux qui se lèvent dans des tas de pays sur mes pièces. Mais parfois, je reçois des lettres qui me racontent comment c'est. Je reçois la presse. Mais moi, c'est vrai que moi, j'écris les suivantes. Hein. Pendant ce temps-là.
Parce que là, bon, je vois jouer en Belgique, en Suisse, en Allemagne, bon, ça, à Monaco, bon, à San Diego, au Chili, déjà, en Estonie, en Turquie.
Ah oui, c'est ce mois-ci, tout ça, oui.
Ah oui, dis donc. Ça, oui. Et puis alors, les Allemands, qui sont très, très clients, hein.
Très.
À cause du nom, Schmitt?
Oui, non, je crois que c'est un malentendu. Ils sont persuadés que je suis allemand. Donc,
oui, il s'appelait Paella. Il aurait été
et en plus, j'ai entretenu ce malentendu. C'est-à-dire que j'ai une fois reçu un prix en Allemagne, à Berlin. Donc, c'était Schröder, c'était un prix important, et humaniste. Et pour leur faire plaisir, j'ai voulu leur faire croire que je parlais allemand. Donc j'ai écrit un texte en français, qui était censé être drôle, et puis je l'ai fait traduire en allemand, et je l'ai appris par cœur, comme Mireille Mathieu apprend ses chansons, et vraiment phonétiquement, quoi, avec un appareil, etc., etc. Et puis j'arrive à Berlin, je vois mon agent de théâtre allemand, je le répète devant lui, il me dit c'est parfaitement prononcé, et il ne rit pas une seule fois. Je me dis je vais me planter, ça va être terrible. Et puis voilà, on monte sur scène, il y avait toutes les caméras, la télévision, c'était en direct, tout ça. Je reçois mon prix, je fais mon discours, toute la salle rit, donc eux comprennent au moins ce que je dis. Moi, je savais même pas ce qui les faisait rire. Et puis, je passe malheureusement après en coulisses, et là, ils étaient tellement contents que je parle allemand que j'ai à peu près 80 micros qui se branchent sur moi, les télévisions. Et là, l'imposture est dénoncée, j'étais incapable de pouvoir continuer. J'avais juste appris ma chanson, quoi.
Est-ce que vous songez à l'Académie française un jour?
Mais c'est plutôt à elle qui doit. Si elle songe à moi.
Oh, ben c'est, il y a 7 fauteuils vacants.
Mais ils m'ont déjà fait un grand honneur, c'est-à-dire que j'ai eu le Grand Prix du théâtre.
Ah ben oui, ah, oui.
C'est la première.
Ouais, ouais,
première
ouais,
marche.
Ouais.
7 fauteuils de libre.
Oui.
Vous êtes encore un peu jeune.
On s'y prête Maïté, ça fait 2 fauteuils.
Oui, d'ici une vingtaine d'années, ce sera.
C'est ce qu'on m'a dit. Pour une fois, j'étais trop jeune.
Oui. Ils essaient de se rajeunir aussi. Oh, oui. Hein.
Qui? Oui. Les gens de l'Académie.
Qui c'est le plus jeune?
Roy, oui.
C'est Roy, non? Orsena.
Orsena,
oui. Orsena, oui. C'est un petit jeune de 50 ans, ouais. Enfin vraiment.
Roy est plus vieux que ça?
Oui, un petit plus, un peu plus. Mais il a été le Benjamin. Peut-être qu'avant d'entrer à l'Académie, vous penserez enfin à passer votre permis de conduire, non?
Ah non, ça...
Pourquoi? C'est très simple.
J'ai eu une seule voiture dans ma vie, c'était une voiture rouge à pédales que j'ai eue quand j'avais 5 ans.
On s'attache.
J'ai jamais.
Depuis, ça a évolué, hein, quand
je ne l'ai jamais remplacé. Non.
Mais ça va revenir à la mode avec, oui, la, oui, lutte avec contre la pollution. Avec...
Non, j'ai jamais passé mon permis. Et j'ai parfois acheté des voitures, mais j'ai toujours pas passé de permis.
C'est agréable, ça.
Et alors, c'est terrible parce que quand j'essaye une voiture, le vendeur me dit toujours installez-vous et je me mets à la place du passager pour l'essayer.
Ah oui.
Enfin, pour l'acheter en tout cas.
C'est qu'il y a un volant.
Et je demande juste s'il y a de la musique.
Vous avez passé votre permis, on vous l'enlève tout de suite parce que.
Voilà. Je me débrouille autrement.
Question de Monsieur Moreau. Que fit le héros de Jules Verne lorsqu'il arriva sur la Lune?
Un petit besoin naturel.
Il a sauté.
Ils sont jamais arrivés sur la Lune. Ils ont fait le tour.
De la Terre à la Lune.
Bah oui, donc de la Terre.
Ils ne sont pas posés la fusée.
Ils tournent autour de la Lune et ils reviennent sur la Terre.
Il arrive à la hauteur de la Lune.
À la hauteur de la Lune. Oui.
Il a dit un petit poème.
Ils
ont ouvert une bouteille de vin de Bourgogne.
De Nuit Saint-Georges.
Une bouteille de Nuit Saint-Georges. Très bonne réponse de Chevalier et d'Amélie.
Allez, alcoolos.
Une bouteille de Nuit Saint-Georges.
Oh. C'est Michel Ardan qui avait la bouteille.
Et il a dit, c'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité.
Oui, enfin ça c'est plus tard. Hein. Et eux, ils avaient mis le pied dessus. Question de Madame Romer. Qu'avait-il décrit
sur le parchemin que l'on découvrit dans le cercueil profané de Nostradamus.
Son numéro de téléphone.
Non, non.
Je vous ai bien eu.
Il avait prévu quelque chose le concernant.
L'élection de Sarkozy, non.
Non. Et... non. Qu'est-ce qu'il avait prévu, justement, le concernant?
Sa mort, d'ailleurs.
Non, l'ouverture
du cercueil, non.
C'est-à-dire, il avait prévu la profanation.
La profanation du cercueil.
Il avait dit, et on rouvrira mon cercueil à telle date. Ouais. Et quand ils sont arrivés...
Il a fait, voilà, je vous l'avais dit.
Et c'était la date précise. En fait, ils étaient venus la veille, puis ils avaient dit, non, on repassera le demain.
Oui, mais comme il a dû le dire dans ses vers, qui étaient complètement hermétiques, on peut faire 250 interprétations à chaque quatrain de Nostradamus.
Ah oui. Et puis ce coup-là, chacun de nous peut le faire parce qu'on est sûr d'avoir raison. Si c'est tout, si on annonce l'ouverture et que ça s'ouvre.
Eh oui, bah évidemment.
Oui, sauf que mettre la date.
Oui, mettre la date. Hein, oui.
Il avait peut-être payé des gens pour l'ouvrir.
Est-ce qu'il a le choix dans la date?
Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard,
c'est sur RTL. Retour des grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard et ses invités.
Vous savez que M. Maillot revient d'un voyage d'études aux États-Unis.
Dans quel état?
Ouais.
C'est le décalage horaire.
Qu'est-ce qui vous avait invité là-bas?
Les fonctionnaires français. C'est-à-dire que j'ai été invité par le FMI et la Banque mondiale. J'ai vu notre...
M. Strauss-Kahn,
d'ailleurs.
Dans son nouveau bureau.
Oui, très bien. Très, très bien.
Bien, hein.
Ah bah, et puis, beau salaire. Hein.
Ah, on dit là, beau bureau.
Oui, j'ai très joli bureau. Et au dernier étage de la Banque mondiale, c'est plutôt bien.
Ah oui. Ça, c'est Washington.
Ouais, 500 000 dollars par an.
Et pas d'impôts.
Pas d'impôts, mais
d'appartement.
Attends, une retraite de je ne sais plus combien.
Pas d'appartement. Ouais.
Non, pour l'instant, il loge au Sofitel de Washington.
Ouais.
Mais après, je crois qu'il va s'installer à Georgetown.
Oui, il cherche là.
Et alors, les fonctionnaires, vous avez fait venir?
Oui, voilà, pour leur parler un petit peu.
Pour voir la tête d'un Français.
Voilà, pour leur parler un petit peu de ce qui se parle.
Mais t'as réussi à les réveiller?
Ah oui, ils sont très éveillés, oui. Ils ont une qualité formidable, c'est qu'ils m'ont dit, nous, on est inconnus du fisc français. Ce sont des vrais fonctionnaires internationaux, c'est-à-dire que tous leurs salaires sont nets d'impôts.
Oh la vache.
Au lieu de chanter, Johnny, il aurait mieux fait d'être fonctionnaire. Bien, net d'impôts.
Ouais, mais ça doit le changer de Sarcelles, hein, Strauss-Kahn, parce que franchement, Sarcelles.
C'est beaucoup plus haut, hein.
Ah, c'est plus haut. Oui.
Ah oui, oui.
Puis c'est plus chaud.
Quoique à Washington, il y a moins de tours qu'ailleurs.
Ah, mais il n'y a pas de tours.
Il y a juste un tour.
Non, il n'y a pas de tours.
Alors, vous avez vu notre ancienne consoeur, Mme Sinclair,
non? Bien sûr, oui, je l'ai aperçue. Oui,
Elle avait mis son pull-bas.
Il y avait tous les ministres qui étaient là.
Dernière citation que nous devons à M. Thomas de Poitiers, qui a dit: le drame de notre époque, c'est que la plupart des gens ne respectent l'âge que lorsqu'il est en bouteille.
Ah, c'est joli. Ah,
ça, c'est très joli.
C'est mort.
Oh, ouais.
Français.
Français.
Ah. Homme politique?
Non.
Écrivain?
Un bon vivant.
Kurlinski? Frédéric Dard?
Non.
Non. Bien avant.
Roman?
19e?
Alors, roman, très bon écrivain, mais il n'a pas abusé de son talent. On lui doit plus d'articles que de livres.
Ah oui.
Plus
un journaliste.
C'est donc un journaliste.
Vialatte?
Gastronomique.
Blois? Non. Non,
pas du tout.
Non.
Valérie Larbeau, non.
Non, non, un écrivain qui fut très connu.
Il écrivait au Figaro.
Non, il n'écrivait pas au Figaro. Et il écrivait toujours sur le même sujet, les mêmes gens, mais il les connaissait bien.
Les sportifs?
Oui.
Alors, Blondin.
C'était Antoine Blondin. Bonne réponse collégiale masculine. Alors, le dernier rite des grosses têtes, Eric Emmanuel Schmitt, c'est de lire une histoire qui a été envoyée par un auditeur et qui, généralement, est inédite. Alors que nous croyons tout connaître, eux en connaissent que nous ne connaissions pas. Et cette fois, c'est M. Kouprianov de Le Pont qui a gagné la timbale. Bon, une petite timbale, puisqu'il n'y a que 100 euros à la clé, mais il y a surtout la volupté de s'entendre raconter par Philippe Chevalier.
Voilà, et le mot est un peu faible. Alors, c'est un type qui raconte ses vacances à Rio de Janeiro à un de ses amis. Alors, il lui explique, il dit: « Tu vois, j'étais sur la magnifique plage de Copacabana lorsqu'une splendide fille en string s'approche de moi. Alors, comme on parlait pas la même langue, elle dessine sur le sable deux rectangles. J'ai tout de suite compris qu'elle voulait mettre sa serviette à côté de la mienne. Plus tard, vers midi, elle dessine dans le sable un cône inversé avec deux boules dessus. »
Comme j'ai de la tête, j'ai tout de suite compris qu'elle voulait une glace, et je lui ai offert une glace. Vers 6 heures du soir, elle dessine une assiette avec un couteau et une fourchette. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, tu me connais, je l'ai invitée à dîner. Et à la fin du repas, elle dessine sur la nappe un lit avec une table de chevet et une lampe. Alors là, j'ai pas compris. Ah bon? Quoi? Bah, comment est-ce qu'elle savait que je travaillais chez Monsieur Meuble?
Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire le dernier livre d'Éric Emmanuel Schmitt. Mais rassurez-vous, il y en aura d'autres. Un livre de 5 nouvelles qui s'intitule « La rêveuse d'Ostende ». Merci, bravo, à demain.